Mardi 3 novembre, le prix Goncourt 2015 a été attribué à Mathias Sénard pour son roman Boussole, paru chez Actes Sud. Mathias Sénard était au lycée ce jeudi 12, il a rencontré les élèves. Je vous propose de l'écouter.
Comme vous le savez tous, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir Mathias Sénard avec nous. Merci.
Bonjour. Ce livre qui s'appelle Boussole, il vient de sortir en France. Il est sorti fin août pour ce qu'on appelle la rentrée littéraire. Et il a reçu la semaine dernière le prix Goncourt, qui est un des grands moments de la littérature française, en tout cas pour son aspect le plus public et tout ça. Du coup, c'est devenu un livre qu'on trouve absolument partout en France et qui commence comme ça. Nous sommes deux fumeurs d'opium, chacun dans son nuage, sans rien voir au dehors, seuls, sans nous comprendre jamais, nous fumons, visages agonisants dans un miroir. Nous sommes une image glacée à laquelle le temps donne l'illusion du mouvement, un cristal de neige, glissant sur une pelote de givre dont personne ne perçoit la complexité des enchevêtrements. Je suis cette goutte d'eau condensée sur la vitre de mon salon, une perle liquide qui roule et ne sait rien de la vapeur qui l'a engendrée, ni des atomes qui la composent encore, mais qui, bientôt, serviront à d'autres molécules, à d'autres corps, aux nuages pesant lourd surviennent ce soir. Qui sait dans quelle nuque ruissellera cette eau, contre quelle peau, sur quel trottoir, vers quelle rivière? Et cette face indistincte sur le verre n'est mienne qu'un instant, une des millions de configurations possibles de l'illusion. Tiens, Monsieur Gruber promène son chien malgré la bruine. Il porte un chapeau vert et son éternel imperméable. Il se protège des éclaboussures des voitures en faisant de petits bonds ridicules sur le trottoir. Le clébard croit qu'il veut jouer, alors il bondit vers son maître et se prend une bonne baffe au moment où il pose sa patte crasseuse sur l'impair de Monsieur Gruber, qui finit malgré tout par se rapprocher de la chaussée pour traverser. Sa silhouette est allongée par les réverbères, flaque noircie au milieu des mers d'ombre des grands arbres, déchirée par les phares sur la porcelaine glacée. Et Herr Gruber hésite apparemment à s'enfoncer dans la nuit de l'Alsergrund, comme moi, à laisser ma contemplation des gouttes d'eau, du thermomètre et du rythme des tramways qui descendent vers Schottentor. Merci, merci. Ce dont il est question dans Boussole, c'est, en gros, une histoire d'amour, mais c'est aussi beaucoup d'histoires qui ont trait aux relations entre l'Est et l'Ouest, entre ce qu'on appelle l'Orient et ce qu'on appelle l'Occident, entre le Moyen-Orient et l'Europe, sur beaucoup de points de vue, et notamment un très grand mouvement culturel et artistique qui a eu lieu au XIXe siècle et qu'on a appelé l'orientalisme. L'orientalisme, il y a plusieurs aspects. Un aspect d'abord scientifique, ça veut dire que ce sont des Européens qui ont appris l'arabe, le persan, le turc de l'Empire turc de l'époque qu'on appelle ottoman. Ils ont appris toutes ces langues et ils sont allés dans les pays, ils ont traduit beaucoup de textes. Ces textes ont été diffusés, alors de la poésie arabe, de la poésie persane classique, des romans vers, des textes aussi de grammaire, d'histoire. Ces textes ont été diffusés en Europe et ont beaucoup inspiré de très nombreux écrivains européens à leur tour qui se sont nourris de ce qui leur parvenait comme ça de l'Est, de l'Orient. Et aussi par exemple des peintres. Beaucoup de peintres ont voyagé au XIXe siècle en Algérie, en Turquie, au Liban, en Syrie et ont rapporté des images qui ont nourri le courant de la peinture qu'on appelle romantique. Il y a eu la même chose aussi en musique, des musiciens qui ont fait le voyage, qui se sont inspirés des musiques arabes ou persanes, et qui sont servis de tout cela pour modifier un peu ce qui pouvait se faire à l'époque en Europe en matière de peinture ou de musique. Ce qui m'intéresse dans le livre, c'est de faire un peu l'histoire, même si c'est un roman, de raconter énormément de personnages au XIXe et au XXe siècle qui se sont passionnés, soit dans un sens des Européens qui sont allés en Orient pour beaucoup de raisons donc culturelles, mais aussi parfois religieuses ou mystiques, ou parce qu'ils étaient attirés par le désert ou par l'exotisme, Et puis dans l'autre sens aussi, des Syriens, des Libanais, des Turcs, des Iraniens qui ont fait le voyage dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est en gros le contexte de Boussole. Après, en fait, vous avez entendu que c'est quelqu'un qui parle, qui est chez lui à Vienne. Le livre commence à Vienne. Et lui, il parle aujourd'hui. Et lui, il est un peu un héritier de cette tradition orientaliste, puisqu'il est musicologue, spécialiste justement des rapports entre l'Est et l'Ouest. Et il est éperdument amoureux d'une femme qui s'appelle Sarah, et qui elle est spécialiste aussi de cela, mais du côté littéraire. Donc c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour aussi entre des gens savants. Une histoire d'amour qui joue sur la longue durée, sur la distance, qui ne se passe pas forcément très bien. Et donc on va suivre un peu ces deux fils dans le livre, à la fois une histoire d'amour et en même temps reconstituer cette grande histoire d'amour aussi qui a été les rapports entre l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest. Bien sûr, il y a un certain nombre d'écrivains justement qui m'ont beaucoup inspiré, et notamment un auteur iranien dont j'ai des questions dans le livre, qui s'appelle Sadek Hedayat, et ce monde très littéraire, un peu oublié des années 30. Donc oui, ça c'est un des auteurs, par exemple, qui est très présent dans le livre. Mais il y en a toujours beaucoup. Quand on écrit, on est souvent entouré aussi de beaucoup de livres. Un autre auteur que vous connaissez peut-être, qui est par exemple dans le livre, c'est Franz Kafka. Beaucoup de gens sont présents, même en chair et en os, j'allais dire, dans le livre en tant que personnage. Avec un roman, il faut voir ça comme une espèce de machine dans laquelle les personnages doivent fonctionner avec l'ensemble. Et donc c'est très difficile de prendre quelqu'un tel quel dans la vie et de le mettre dans un roman. Pourquoi ? Si j'invente le personnage de Franz et qu'il est amoureux de Sarah, il faut bien qu'il y ait quelque chose entre eux qui correspondent, et donc il faut qu'ils aient des affinités. Et donc Sarah, elle a aussi à voir avec le personnage de Franz, et ils ont aussi à voir avec le monde qui les entoure, et ainsi de suite. Et donc voilà, les personnages se construisent comme ça, les uns par rapport aux autres aussi. Alors par contre, je réfléchis pas, j'ai pas forcément à côté de mon traité de rhétorique, en me disant, ah là, je vais faire un très bel hippalage. Non. Ou alors, ah, je manque de zogma. Non. Ça se passe pas comme ça. Nous, on écrit, mais effectivement, moi, j'ai à ma disposition toute la palette de ces tropes qui vous ennuient, dont les noms sont compliqués et dont on a du mal à savoir s'il s'agit d'une métonymie ou d'une métaphore. J'ai tout ça à ma disposition, je m'en sers, mais je suis pas là à me dire « Ah, tiens, là, j'ai fait une magnifique métonymie. » Non. Mais moi, quand j'écris, je les produis naturellement, les figures de style.
Combien de temps avez-vous mis pour écrire Boussole ?
À peu près 4 ans. Vous faites le compte, 6e, 5e, 4e, 3e. 4 ans, ça veut dire vraiment tout compris. Puis le moment où je commence à y réfléchir et le moment où le livre sort. Après, sachant que juste le processus pour faire un livre, à partir du moment où moi j'ai fini, d'accord ? J'ai fini mon texte. De mon côté, tout est terminé. Et le moment où le livre sort, il faut compter 6 mois. Donc c'est long en fait. Parce que moi, je vais rendre mon manuscrit à l'éditeur. Moi, j'ai fini. L'éditeur va le lire une première fois. On va en discuter. Il va me renvoyer des corrections, des idées qu'il a eues en le lisant. Moi, je vais peut-être retravailler un peu, réfléchir à ce qu'il m'a dit, changer 2-3 choses. Et là, on va dire, bon, ça y est, on est prêt. Le texte rentre en ce qu'on appelle en fabrication. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut le mettre, passer mon manuscrit, qui est un document Word, dans le programme de mise en page de l'éditeur. Donc ça prend déjà un peu de temps. Après, il faut corriger le texte, et ça aussi c'est long. Alors la correction, ça ne veut pas dire que je fais beaucoup de fautes d'orthographe, même s'il y en a toujours. C'est beaucoup de choses qu'on appelle orthotypographiques, qui sont des questions d'espace placé après les points virgules, qui ne doivent pas aller à la ligne, de lignes qui ne soient pas orphelines, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir une fin de paragraphe en bas, avec une ligne seulement et le paragraphe qui remonte de l'autre côté. Bref, énormément de normes de typographie qui doivent être corrigées. Les dialogues, est-ce qu'on met des guillemets, est-ce qu'on n'en met pas, est-ce qu'on met un grand tiret qu'on appelle quadratin ou pas, comment est-ce qu'on uniformise tous les dialogues dans les livres, bref. Ça, c'est des grosses questions, en fait, qu'on s'en rend pas compte quand on a un livre entre les mains. Mais derrière, il y a vraiment un gros travail d'édition. Après, il faut faire tout l'appareil qu'il y a autour du texte. La couverture, la quatrième de couverture, qui est le texte qu'il y a derrière. Et là, à ce moment-là, on commence à présenter le livre aux commerciaux de la maison d'édition qui vont eux-mêmes ensuite aller en parler aux libraires et en librairie. Et ça, bien avant que le livre existe. Et puis ensuite, on envoie le livre à l'imprimerie. Enfin bref. Et donc tout ça, ça prend vraiment assez longtemps. Le livre est sorti en septembre. Alors pour vous dire comment ça se passe, moi je l'ai fini en janvier. Et donc évidemment, quand j'écrivais sur Palmyre, l'État islamique n'avait pas pris Palmyre. Ça, c'est uniquement cet été. Et c'est encore plus triste de voir que la destruction a rattrapé le livre. Parce qu'il est aussi question beaucoup de Syrie. Le roman se déroule dans tout cas à Vienne, Istanbul, la Syrie et l'Iran. Et dans la partie syrienne, je parle des destructions qui avaient déjà eu lieu au moment où j'écrivais le livre, Alep par exemple. Et c'est très triste de voir que la destruction et la guerre ont en quelque sorte rattrapé le livre. Et certains des monuments desquels je parle dans le livre n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, là, je savais que depuis très longtemps que j'avais envie de raconter cette très longue histoire des relations entre l'Orient, l'Occident, l'Est et l'Ouest, et justement le déplacement de cette frontière entre les deux et cette longue histoire qui nous réunit. Mais je ne savais pas forcément comment. Mais j'ai quand même continué à amasser des documents, des personnages, justement, à construire comme ça un espèce de monde, comme une malle dans laquelle on range des informations, des lieux, des histoires. Et petit à petit, le projet s'est affiné en moi et j'ai conçu comment est-ce que je pouvais relier tous ces éléments par l'intermédiaire justement de ce personnage qui va nous raconter ces histoires. Sarah, c'est la femme dont le narrateur est très amoureux. En vrai, elle n'existe pas. Ce que je vais vous dire, c'est comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un personnage. On prend des éléments autour de soi, des qualités, des défauts, une apparence physique à beaucoup de gens qui vous entourent, ou pas, où on imagine une grande partie, et puis tout ça, on le modèle ensemble, et ça donne un personnage de fiction, qui donc est beaucoup de gens à la fois. Des gens très savants que j'ai pu rencontrer moi, des amis proches. Quand on fabrique des personnages, ils sont toujours composites. Moi, c'est très rare que je prenne quelqu'un dans la vraie vie et que je le mette dans le livre tel quel. C'est toujours transformé, métamorphosé un peu pour le fonctionnement du roman. Il y a une première partie du processus qui est réfléchir, mais ça sans écrire, à ce qu'on pourrait appeler l'histoire en général. Ensuite, avoir un peu un espèce de plan, plus ou moins ce qui va se passer, et en même temps, faire les recherches dont on peut avoir besoin pour nourrir aussi le roman. C'est une partie importante du travail aussi. Et pour moi, quand je fais ça en même temps, ça aide aussi l'histoire à se mettre en place. Et après, il y a l'écriture proprement dite, qui peut se faire soit du début à la fin, soit par morceaux. Moi, j'aime beaucoup commencer par la fin, en fait. J'ai déjà une fin qui est écrite, et ça vous donne comme un espèce de but auquel parvenir. Même si cette fin écrite, elle peut changer. Ça ne veut pas dire que c'est les mots que j'ai écrits au début qui vont rester, mais néanmoins, plus ou moins, les circonstances de la fin, je les connais dès le départ. Et donc comme ça me fait une espèce de trajectoire, un peu balisée, vers laquelle je dois parvenir en écrivant. Il y a des livres qui commencent par le titre, et d'autres où le processus est plus compliqué que ça. Ce livre, au départ, ne s'appelait pas comme ça. Il ne s'appelait pas Boussole. Au début, il s'appelait Noir Opium. Et puis mon éditeur m'a fait remarquer que ça ressemblait un peu à un nom de parfum de Yves Saint-Laurent, ce qui m'a énormément déçu. Donc j'ai dit, ok, bah, je trouve autre chose. Et après, je suis passé à la boussole de Beethoven, parce qu'il y a une histoire de Beethoven. Ça faisait un peu, du coup, un peu savant. Donc ça, il y a aussi un processus. Après, parfois, à l'inverse, c'est le titre qu'il a dès le départ, avant même qu'on ait l'histoire. Par exemple, Parle-leur de bataille de roi et d'éléphant, je savais que ça allait être un titre. Je ne savais pas encore pour quel livre. Et c'est qu'après que j'ai trouvé le livre. Donc ça aussi, les histoires de titres, ça change. Et puis, le titre, c'est aussi un rapport à l'éditeur, parce que c'est l'éditeur qui va distribuer le livre, qui va vendre le livre. Et donc, lui, il nous conseille aussi sur ce côté-là. Attention, c'est peut-être pas forcément un bon titre. Et donc, on a dit, ah ben, boussole tout court. Voilà.